Livre 1, chapitre 4, Grand 1. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que le mot de totem apparaît dans la littérature ethnographique. On le rencontre pour la première fois dans le livre d'un interprète indien, Geelong, qui fut publié à Londres en 1791. Pendant près d'un demi-siècle, le totémisme ne fut connu que comme une institution exclusivement américaine. C'est seulement en 1841 que Gray, dans un passage resté célèbre, signala l'existence de pratiques tout à fait similaires en Australie. On commença dès lors à se rendre compte qu'on se trouvait en présence d'un système d'une certaine généralité. Mais on n'y voyait guère qu'une institution essentiellement archaïque, une curiosité ethnographique sans grand intérêt pour l'historien. MacLennan fut le premier qui a entrepris de rattacher le totémisme à l'histoire générale de l'humanité. Dans une série d'articles parus dans la Fortnightly Review, il s'efforça de montrer non seulement que le totémisme était une religion, mais que de cette religion était dérivée une multitude de croyances et de pratiques, que l'on retrouve dans des systèmes religieux beaucoup plus avancés. Il alla même jusqu'à en faire la source de tous les cultes zoolatriques et phytolatriques que l'on peut observer chez les peuples anciens. Assurément, cette extension du totémisme était abusive. Le culte des animaux et des plantes dépend de causes multiples que l'on ne peut sans simplisme réduire à l'unité. Mais ce simplisme, par ses exagérations mêmes, avait, du moins, l'avantage de mettre en évidence l'importance historique du totémisme. D'un autre côté, les américanistes s'étaient aperçus depuis longtemps que le totémisme était solidaire d'une organisation sociale déterminée. C'est celle qui a pour base la division de la société en clans. En 1877, dans son Ancient Society, Lewis H. Morgan entreprit d'en faire l'étude, d'en déterminer les caractères distinctifs, en même temps que d'en faire voir la généralité dans les tribus indiennes de l'Amérique septentrionale et centrale. Presque au même moment, et d'ailleurs sous la suggestion directe de Morgan, Fison et Howitt constataient l'existence du même système social en Australie, ainsi que ses rapports avec le totémisme. Sous l'influence de ces idées directrices, les observations purent se poursuivre avec plus de méthode. Les recherches que suscita le Bureau américain d'ethnologie contribuèrent pour une part importante au progrès de ces études. En 1887, les documents étaient assez nombreux et assez significatifs pour que Fraser ait jugé opportun de les réunir et de nous les présenter dans un tableau systématique. Tel est l'objet de son petit livre intitulé « Totemism », où le totémisme est étudié à la fois comme religion et comme institution juridique. Mais cette étude était purement descriptive, aucun effort n'y était fait soit pour expliquer le totémisme, soit pour en approfondir les notions fondamentales. Robertson Smith est le premier qui ait entrepris ce travail d'élaboration. Il sentait plus vivement qu'aucun de ses devanciers combien cette religion grossière et confuse était riche en germes d'avenir. Sans doute, MacLennan avait déjà rapproché le totémisme des grandes religions de l'Antiquité, mais c'était uniquement parce qu'il croyait retrouver, ici et là, un culte des animaux et des plantes. Or, réduire le totémisme à n'être qu'une sorte de zoolatrie ou de phytolatrie, c'était n'apercevoir que ce qu'il a de plus superficiel. C'était même en méconnaître la nature véritable. Smith, par-delà la lettre des croyances totémiques, s'efforça d'atteindre les principes profonds dont elles dépendent. Déjà, dans son livre sur la parenté et le mariage dans l'Arabie primitive, il avait fait voir que le totémisme suppose une consubstantialité, naturelle ou acquise, de l'homme et de l'animal, ou de la plante. Dans sa religion des Sémites, il fit de cette même idée l'origine première de tout le système sacrificiel. C'est au totémisme que l'humanité devrait le principe de la communion alimentaire. Et sans doute, on peut trouver que la théorie de Smith était unilatérale, elle n'est plus adéquate aux faits actuellement connus. Mais elle ne laissait pas de contenir une vue géniale, et elle a exercé sur la science des religions la plus féconde influence. C'est de ces mêmes conceptions que s'inspire le Golden Booth de Fraser, où le totémisme que MacLennan avait rattaché aux religions de l'Antiquité classique, et Smith à celle des sociétés sémitiques, se retrouve relié au folklore européen. L'école de MacLennan et celle de Morgan venaient ainsi rejoindre celle de Mannhardt. Pendant ce temps, la tradition américaine continuait à se développer avec une indépendance qu'elle a d'ailleurs conservée jusqu'à des temps tout récents. Trois groupes de sociétés furent particulièrement l'objet de recherches qui intéressent le totémisme. Ce sont d'abord les tribus du Nord-Ouest, les Tlingit, les Aïda, les Kualiutl, les Salish, les Tsimshian. C'est ensuite la grande nation des Sioux. Enfin, au centre de l'Amérique, les Indiens des Pueblos. Les premiers furent principalement étudiés par Dole, Krause, Boas, Swanton, Hiltout. Les seconds par Dorsey, les derniers par Mindeleff, Mrs. Stevenson, Cushing. Mais si riche que fut la moisson de faits que l'on recueillait ainsi de toutes parts, les documents dont on disposait restaient fragmentaires. Si les religions américaines contiennent de nombreuses traces de totémisme, elles ont pourtant dépassé la phase proprement totémique. D'autre part, en Australie, les observations n'avaient guère porté que sur des croyances éparses et des rites isolés, rites d'initiation et interdits relatifs au totem. Aussi est-ce avec des faits pris de tous les côtés que Fraser avait tenté de tracer un tableau d'ensemble du totémisme. Or, quel que soit l'incontestable mérite de cette reconstitution, entreprise dans ces conditions, elle ne pouvait pas ne pas être incomplète et hypothétique. En définitive, on n'avait pas encore vu une religion totémique fonctionner dans son intégralité. C'est seulement dans ces dernières années que cette grave lacune a été comblée. Deux observateurs d'une remarquable sagacité, messieurs Baldwin Spencer et F.J. Gillen, ont en partie découvert dans l'intérieur du continent australien un nombre assez considérable de tribus où ils ont vu pratiquer un système religieux complet, dont les croyances totémiques forment la base et font l'unité. Les résultats de leur enquête ont été consignés dans deux ouvrages, qui ont renouvelé l'étude du totémisme. Le premier, The Native Tribes of Central Australia, traite des plus centrales d'entre ces tribus, les Arunta, les Luritcha et un peu plus au sud, sur le bord occidental du lac Eyre, les Urabuna. Le second, intitulé The Northern Tribes of Central Australia, se rapporte aux sociétés qui sont au nord des Urabuna. Elles occupent le territoire qui va des McDonnell Ranges jusqu'au golfe de Carpentarie. Ce sont, pour ne citer que les principales, les Unmanjera, les Kaitish, les Waramunga, les Wargaya, les Chingili, les Bimbinga, les Walpari, les Gnanji et enfin sur les bords même du golfe, les Mara et les Anula. Plus récemment, un missionnaire allemand, Karl Strelow, qui a passé lui aussi de longues années dans ces mêmes sociétés du centre australien, a commencé à publier ses propres observations sur deux de ces tribus, celles des Aranda et les Loridja, Arunda et Luritcha de Spencer et Gillen. Très maître de la langue parlée par ces peuples, Strelow a pu nous rapporter un grand nombre de mythes totémiques et de chants religieux qui nous sont donnés, pour la plupart, dans leur texte original. Malgré des divergences de détails qui s'expliquent sans peine et dont l'importance a été grandement exagérée, nous verrons que les observations faites par Strelow, tout en complétant, précisant, parfois même rectifiant celles de Spencer et Gillen, les confirment en somme dans tout ce qu'elles ont d'essentiel. Ces découvertes suscitèrent une abondante littérature sur laquelle nous aurons à revenir. Les travaux de Spencer et Gillen, surtout, exercèrent une influence considérable, non seulement parce qu'ils étaient les plus anciens, mais parce que les faits y étaient présentés sous une forme systématique, qui était de nature à la fois à orienter les observations ultérieures et à stimuler la spéculation. Les résultats en furent commentés, discutés, interprétés de toutes les manières. Au même moment, Howitt, dont les études fragmentaires étaient dispersées dans une multitude de publications différentes, entreprit de faire, pour les tribus du Sud, ce que Spencer et Gillen avaient fait pour celles du Centre. Dans ses Native Tribes of Southeast Australia, il nous donne un tableau d'ensemble de l'organisation sociale des peuples qui occupent l'Australie méridionale, la Nouvelle-Galles du Sud et une bonne partie du Queensland. Les progrès ainsi réalisés suggérèrent à Fraser l'idée de compléter son totémisme par une sorte de compendium, où l'on trouverait réunis tous les documents importants qui se rapportent soit à la religion totémique, soit à l'organisation familiale et matrimoniale, dont, à tort ou à raison, cette religion passe pour être solidaire. Le but de cet ouvrage n'est pas de nous donner une vue générale et systématique du totémisme, mais plutôt de mettre à la disposition des travailleurs les matériaux nécessaires pour une construction de ce genre. Les faits y sont disposés dans un ordre strictement ethnographique et géographique. Chaque continent, et à l'intérieur de chaque continent, chaque tribu ou groupe ethnique, sont étudiés séparément. Sans doute, une étude aussi étendue et où tant de peuples divers sont successivement passés en revue ne pouvait être également approfondie dans toutes ses parties. Elle n'en constitue pas moins un bréviaire utile à consulter et qui peut servir à faciliter les recherches.